Je suis vraiment désolé de l'exiguïté des locaux, comme on pourrait dire. Il est possible qu'on envisage pour les prochaines séances une autre salle. Mais en tout cas, on n'aura pas le temps déjà de la trouver d'ici la semaine prochaine. Donc revenez la semaine prochaine, même aussi nombreux. C'est pas grave. De toute façon, aujourd'hui, nous allons avoir une séance d'introduction. Je me proposais en première introduction de vous expliquer l'ensemble du déroulement du séminaire. Mais ça risque de nous prendre trop de temps. Et vous vous référez au programme. Et comme je crains qu'il va faire très chaud d'ici pas très longtemps, on ne pourra pas rester trop longtemps, alors j'embraye tout de suite sur le sujet. Écoutez, on a installé un haut-parleur, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'appoint. Est-ce que ça vous gêne pour écouter ou est-ce que ça vous aide à écouter?
Hein?
Ça aide. Oui, parce que j'entends un écho. Ça fait écho, c'est pas grave. Si ça aide les autres... Bien. Alors, le sujet de ce soir est une première introduction très générale. Et je voulais dire en première phrase, si vous voulez, qu'il ne faut pas vous attendre à des révélations magiques ou à des... même pas sur le taux du dollar demain, vous le connaissez déjà. Et il y a tout un aspect de mystique autour du thème de la Kabbalah qu'il est peut-être déjà, dès le début, nécessaire de, je ne vais pas dire démystifier, quoi que ce serait peut-être le mot, mais en tout cas, d'atténuer. Je vais vous donner un certain nombre de formules que nous étudierons l'une après l'autre. Et d'abord, le plan de ces quelques phrases d'introduction. Nous allons d'abord nous occuper d'un problème de linguistique. Ce mot de Kabbalah, que signifie-t-il dans la tradition juive? Et de telle sorte de mieux comprendre ce qu'il véhicule comme enseignement, comme message, ce qu'il transmet. Et ensuite, nous aurons un premier aperçu historique, très bref, de la relation entre le temps de la prophétie et le temps de la Kabbalah. Et ensuite, j'entrerai dans le fond du sujet, dans le gros du sujet, c'est-à-dire la définition de l'objet de la Kabbalah, la relation entre la Kabbalah et la prière. Et enfin, fin de séance, nous aurons un bref récapitulatif historique des grandes époques de la Kabbalah jusqu'à nos jours, puisque, comme je vous le signale de nouveau, cela a été indiqué dans vos programmes, nous avons décidé de mettre sur pied ce séminaire, surtout comme en introduction à l'enseignement du Rav Kook, qui, lui, ne peut vraiment être reçu avec bénéfice, si j'ose dire, que si on possède déjà un certain nombre de notions suffisamment éclaircies, suffisamment précisées du vocabulaire de la Kabbalah. Par conséquent, il n'est pas question pour ce soir de vous attendre à l'histoire de la pensée kabbaliste ou de la tradition kabbaliste dans l'ensemble, ni non plus la découverte de tous les thèmes de la pensée kabbaliste. Mais, n'entendez pas? Depuis le début? Non, pour savoir, depuis le début? N'entendez-vous?
Ça, c'est impossible.
Non, alors le problème, c'est que je vais parler sans haut-parleur, tout simplement. Ou alors au moins de... Alors je vais parler par là. Non mais je voulais vous demander, est-ce que c'est constamment que vous n'entendez pas ou par... Pas du tout ou par à-coup? Avec le micro-collège. Bien, ça va mieux? Donc. Bon, d'abord, la première partie concernant la terminologie elle-même. Alors, vous allez être obligé de visualiser les termes en hébreu, puisque je ne pourrais pas me lever pour écrire au tableau. Mais j'espère que ça sera suffisamment clair, sinon, faites-moi signe. Voilà, le mot de Kabbalah a un premier sens très général, et peut-être trop général, dans le sens de tradition. C'est un des termes dont l'hébreu, traditionnel d'ailleurs, se sert pour dire la tradition. Les connaissances qui se sont transmises par tradition. Mais il y a déjà une première précision. Ça veut dire que ce sont des connaissances qui, si elles n'étaient pas transmises, ne pourraient pas être connues. Et on pourrait tout de suite signaler, il y a cependant les livres. Il y a les livres, en particulier la mise par écrit de la parole prophétique dans la Bible. Il y a la Bible. Ne suffit-il pas de lire, d'étudier, d'approfondir le texte biblique et aussi les textes de la tradition orale qui ont été mis par écrit d'autre part, parallèlement et successivement à l'époque biblique, ce qui est en général assez connu, pour disposer de ce contenu traditionnel de connaissances transmises dans le sens premièrement étymologique du mot de Kabbalah? Eh bien, la réponse est apparemment non, puisque nous sommes en présence dans la tradition juive, comme d'ailleurs aussi de manière parfois analogique dans d'autres traditions à deux dimensions traditionnelles. Le point sur lequel je reviendrai tout à l'heure aussi, ce que l'on appelle la tradition ésotérique, celle qui est réservée à certains initiés, celle qui se transmet de bouche à oreille, en hébreu nous disons de bouche à bouche, et c'est, le changement d'expression est important à comprendre aussi. Peut-être je l'expliquerai tout de suite pour ne pas ouvrir trop de parenthèses non refermées. De bouche à oreille, ça signifie que celui qui entend, entend ce qu'il entend de ce que celui qui a dit ce qu'il a dit. Pour le dire autrement, quelqu'un parle, et celui qui entend, entend ce qu'il entend. Donc de bouche à oreille, il y a une diminution, sinon parfois une dénaturation de ce qui a été transmis. Il y a en tout cas ce risque. Tandis que de bouche à bouche, ça signifie que la bouche de l'oreille qui a entendu répète ce qu'elle a entendu de la bouche qui a parlé. De bouche à bouche, mi-PLP en hébreu. Donc l'expression n'est pas exactement la même, et la mentalité même, la philosophie de la transmission de la tradition n'est pas exactement la même, mais disons analogiquement. Il y a donc une lignée ésotérique de la tradition initiatique, s'appuyant bien sûr, mais au-delà de ce qui est dit dans le livre, de ce qui est écrit dans le livre, et d'autre part, la lignée de l'enseignement exotérique, comme on dit en français, celle qui est explicite et celle qui se réfère directement et, si j'ose dire, exhaustivement, purement et simplement, au contenu des livres. Nous verrons tout à l'heure, dans le déroulement historique, à quel moment la tradition prophétique s'est séparée en ces deux lignées, l'une ésotérique qui va devenir la lignée de la Kabbalah dans la tradition juive, et l'autre exotérique qui est l'enseignement du judaïsme en général, tel qu'il est connu en dehors de la tradition kabbaliste. Voilà donc le premier sens. Kabbalah signifie tradition, avec déjà cet accent sur le fait qu'il s'agit d'une tradition particulière qui est essentiellement orale. Je ne voudrais pas trop pousser les concepts et les catégories à la limite, bien que nous sommes obligés d'être trop schématiques, mais à la limite on pourrait dire qu'il y a certes des textes écrits par les kabbalistes, mais que la Kabbalah elle-même est restée orale. Et que si ces textes des kabbalistes eux-mêmes ne sont pas décodés, décryptés, expliqués par quelqu'un qui en a reçu l'explication oralement de génération en génération, ils restent finalement hermétiques. Le plus grand piège, c'est leur facilité. Ils sont très faciles à lire, tellement faciles que l'on croit que l'on a compris. Et lorsque nous entrerons plus profondément dans le courant du séminaire, vous en aurez quelques exemples. À simple lecture, au niveau purement littéraire, ce sont des textes faciles, et d'ailleurs très séduisants par leur facilité littéraire. Mais tant que l'on n'a pas entendu de quelqu'un qui a entendu de quelqu'un ce que signifie chacune des catégories employées, alors cela se fait prendre pour une sorte de philosophie poétique ou de poésie philosophique. Il y a là un piège. Mais cependant, le premier sens du mot de Kabbalah, tradition, je poserai de nouveau la même question, en quel sens? Le sens du mot hébreu Kabbalah, se rattachant à la racine Lekabel, signifie tradition reçue. Alors que nous avons un autre terme, d'autres termes pour dire la tradition en général. Par exemple, la Massoret, la Massora, ce qui est transmis et chacun reçoit ce qu'il peut recevoir. Mais la Kabbalah, d'après le terme même qui est employé, les Kabel, ça signifie recevoir. Donc cela restreint de façon bien précise la définition déjà sémantique du terme, des connaissances que l'on ne peut posséder que si on les a reçues et en tant qu'on les a reçues. Historiquement, ça signifie, et nous allons le voir de différentes manières, que la Kabbalah est la tradition juive, hébraïque, je devrais dire d'ailleurs, hébraïque, juive, telle qu'elle fait, elle représente la perpétuation de la prophétie. cette définition de la connaissance par révélation, qui ne peut être obtenue que si elle a été reçue, c'est d'abord la définition de la prophétie. Par conséquent, il y a un moment important de notre étude, dès le début, qui doit être mis en évidence, c'est le temps de la cessation de la prophétie, et j'y reviendrai, et c'est d'ailleurs à ce moment que se séparent, non pas se séparent, mais que divergent, si vous voulez, ces deux lignées d'enseignement, la lignée exotérique et la lignée ésotérique, à partir du même fond de révélation prophétique, et nous verrons pourquoi tout à l'heure. Mais il y a quelque chose de plus, qui nous amène au deuxième point, déjà, la relation entre la Kabbalah et la prière. Toujours dans l'exploration de l'objet de la Kabbalah, et nous sommes encore que vraiment à la surface. C'est que ce qu'on appelle en français les kabbalistes, et je laisse de côté, si vous voulez, les spécialistes de la Kabbalah, les universitaires, les historiens, surtout les historiens d'ailleurs, on les appelle les kabbalistes, je ne sais pas comment on appelle historiens, ceux qui s'occupent d'histoire. Disons, il peut y avoir une différence de nature entre un professeur d'histoire et un historien. Un professeur d'histoire n'est pas forcément historien, un historien n'est pas forcément professeur, ce qui est encore un autre problème. Mais je veux dire, il y a des savants, surtout des historiens, qui s'occupent des textes de la Kabbalah, on les appelle des kabbalistes. Ça ne signifie pas qu'ils soient kabbalistes dans le sens traditionnel, c'est-à-dire qu'ils fassent partie de cette lignée traditionnelle que j'ai appelée tout à l'heure la lignée ésotérique de l'enseignement des prophètes et qui fait suite à l'enseignement des prophètes. Je pense que la définition est suffisamment claire. Mais en hébreu, ce qu'on appelle en français les kabbalistes dans le sens réel, on dit « mekoubalim ». Si on devait retenir uniquement le premier sens que nous avons atteint, le fait de recevoir les kabbels, on devrait dire, pour désigner, par exemple, ce qui est la thèse la plus répandue, ceux qui ont reçu un enseignement spécifique, on devrait dire en hébreu, non pas ce que l'on dit en fait « mekoubalim », mais « mekabelim ». Je répète les termes pour ceux qui entendent déjà en hébreu. Je crois que ça nous fera d'autant plus progresser dans le sens et l'analyse de cette catégorie, la Kabbalah, si l'on éclaire la raison pour laquelle en hébreu on nomme les kabbalistes « mekoubalim » et non pas « mekabelim ». Quelle est la différence ?« Mekablim » en hébreu, ça veut dire « ceux qui reçoivent », alors que « mekoubalim », cela signifie « ceux qui sont reçus ». Première définition possible, ils sont reçus dans un cercle d'initiés. C'est peut-être une définition que vous trouverez chez les historiens. Mais, et je ne m'attarde pas sur cette première définition possible, lorsqu'on se réfère au texte de référence, et j'en donnerai immédiatement deux, on s'aperçoit que c'est un peu plus profond que cela. Et cela nous mettra au bord de la définition générale de l'objet de la Kabbalah, ce qui nous mènera au deuxième point, les grands thèmes desquels je désignerai déjà ce soir, avant de vous donner le récapitulatif historique qui était annoncé dans votre programme. Il y a un premier texte qui se trouve dans la Maseret Brachot, déjà dans le Talmud, et qui appelle Mekoubal celui dont la prière est acceptée. Je vais vous donner la référence. Cela se trouve à la page 34b de la Maseret Brachot, vers la fin du cinquième chapitre. Je ne vous citerai pas l'ensemble du texte qui fait référence, mais simplement pour situer le mot lui-même dans ce thème. Et très rapidement, on s'est aperçu que certains priants, c'est-à-dire hommes capables de prier, voyaient leur prière exaucée rapidement et évidemment, presque parfois spectaculairement, alors que d'autres pas. Alors on appelle celui dont la prière est reçue, est acceptée, je retiens le même verbe dans la forme passive, celui dont la prière est mekoubelet, on l'appelle un mekoubal. Il y a certains signes auxquels, dans l'enseignement du Talmud, on reconnaît qu'une prière sera acceptée. J'ouvre une petite parenthèse pour vous rassurer un peu quant à l'efficacité de la prière en général. Toutes les prières sont entendues, mais sont exaucées immédiatement, sans que ce soit différé, qu'une certaine catégorie de prières qu'on appelle les prières des mekoubalim, de ceux qui sont eux-mêmes acceptés dans leur prière. Je pense que c'est suffisamment clair. La relation entre la prophétie et la prière Et nous l'avons dans un thème général, très, très important, bien que très connu, sur lequel il faut réfléchir, et qui nous remet de nouveau en évidence l'importance de ce mouvement où la prophétie a cessé comme événement historique à la fin de Baït Rishon, et à peu près 400 ans, 450 années avant l'ère actuelle. Donc il y a grosso modo 2400-2500 années, et je me référerai de nouveau à ce moment historique tout à l'heure. C'est que pendant le temps où la prophétie était réalité expérimentale, et surtout depuis le temps où la prophétie n'est plus réalité expérimentale, je reviendrai sur ce point, il n'y a qu'une seule relation admise par la tradition de la prophétie entre Dieu et l'homme. C'est la relation par la parole. Or, la relation de la parole, lorsqu'elle va de Dieu à l'homme, c'est la prophétie, et lorsque la parole va de l'homme à Dieu, c'est la prière. Par conséquent, il y a un contenu commun, un contenu entre le contenu de la prophétie, peu importe la répétition, entre le contenu de la prophétie et le contenu de la prière. C'est ce contenu commun à la prophétie, à la prière, les véhicules de relations possibles, quelles que soient les hiérarchies de médiation que nous aurons à explorer, entre Dieu et l'homme et l'homme et Dieu, qui est l'objet de l'étude de la Kabbalah. C'est-à-dire la relation entre l'homme et Dieu par la parole. Or, il y a donc un appui historique. Cette relation a déjà eu lieu dans le sens de Dieu à l'homme, dans l'univers de la prophétie biblique, dans l'univers de la prophétie hébraïque. Et par définition, les priants étaient les prophètes, et les prophètes étaient les priants. Deuxième référence, c'est Abraham lui-même. La première fois que la Bible emploie dans le même verset, simultanément, le mot de prophétie et le mot de prière, c'est à propos d'Abraham, au verset 7 du chapitre 20 de la Genèse, « Ki navihu vehu veitpalel baradecha » car il est prophète et il priera pour toi. Il y a donc, indépendamment des autres secteurs de la préoccupation de la pensée kabbaliste, de la tradition kabbaliste, un centre de définition qui nous est donné par le terme lui-même. Il s'agit d'une tradition reçue des prophètes et qui rend capable de faire que la prière soit exaucée. Encore une fois, ça ne signifie pas que toute prière dite n'ait pas son importance. Elle est entendue. On dit de Dieu qu'il est Shomer Tefila, et l'exaucement, si j'ose dire, est différé et suspendu jusqu'à ce qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Tout se passe comme si il y a des êtres privilégiés dont la prière a une conséquence immédiate. L'exemple que nous avons dans l'histoire de la Bible, ce sont les prophètes, c'est les prophètes eux-mêmes, et à la suite des prophètes, ce que nous allons de nouveau appeler en français les kabbalistes, c'est-à-dire maintenant les Mekoubalim, dans cette première définition bien précise, ceux dont la prière est exaucée. Voici pour ces deux premières références. Alors j'en viens en charnière de l'analyse à ce moment important que je voudrais remettre en évidence, lui redonner son importance historique et surtout pour les implications et les conséquences qu'il a eues pour l'histoire universelle. C'est qu'on oublie que la prophétie, comme réalité du dévoilement de la révélation du Créateur à sa créature, a eu un temps historiquement clos, que la prophétie a cessé. Pourquoi c'est important de le dire de cette manière ? Parce que c'est parce qu'on oublie que la prophétie a cessé qu'on oublie qu'elle a eu lieu. Et il faut donc se souvenir de cela. L'essentiel du message de la Bible, c'est de nous dire, pour l'entourage en tout cas, que la capacité de prophétie qui devrait être normale à tout homme, puisque tout homme est créature humaine du Créateur, mais étant donné ce que l'histoire de l'homme a fait d'elle-même, et il en est résulté que la capacité de prophétie demande un certain nombre de critères, un certain nombre de conditions particulières, et par conséquent représente un fait exceptionnel. Or, ce fait exceptionnel était immédiat, Matsui, trouvable, se trouvait là pendant un certain temps de l'histoire que raconte la Bible. Et la Bible elle-même nous annonce que ceci va être clos. Je dirai d'ailleurs tout de suite les deux raisons principales qui rendent compte du fait de la fin du temps de la prophétie. Mais nous, qu'on pourrait appeler les modernes, avec une longue distance par rapport à ce temps où la prophétie a cessé, c'est-à-dire la fin du premier temple, essayer de vous situer par perspective historique une épaisseur de durée considérable. Mais nous, nous nous trouvons dans un monde où nous n'avons pas expérience de ce qu'a été la prophétie comme réalité expérimentable, c'est-à-dire en la prenant au sérieux. En prenant au sérieux la formule biblique que Dieu parle à l'homme pour lui dire que, de point ouvrir les guillemets, Baïdaber, Hachem et Moshe les morts ou à tel ou tel autre prophète. Nous sommes tellement d'une distance tellement longue avec ce temps-là que nous cherchons des analogies dans notre propre expérience intellectuelle ou spirituelle, parce que nous n'avons peut-être parfois pas le courage d'oser envisager qu'il faut prendre au sérieux ce fait tel que la Bible lui-même le raconte. En tout cas, nous trouvons dans un temps du monde où ceci a cessé. Nous verrons tout à l'heure que ça n'a pas cessé complètement, qu'il y a, comme on pourrait dire, une sorte de rémanence de la parole prophétique. On va la retrouver dans la tradition kabbaliste de façon privilégiée, mais d'abord il faut prendre acte et remettre en évidence ce fait historique. Il y a eu un temps où l'existence du prophète était une des données immédiates de l'existence tout court. Ce temps a cessé et nous nous trouvons dans un monde où ceci a changé. Je pense que c'est suffisamment clair. Précisément à partir de ce temps-là, le contenu de la parole prophétique va être transmis dans deux lignées différentes. Ce qui se relie au texte de la mise par écrit de la parole des prophètes, par la médiation de la foi, et à partir de cette foi que ces textes sont vérité, essaye par l'étude d'aborder une connaissance à l'échelle humaine, chacun à son niveau, autant que se peut, du contenu de cette mise par écrit de la parole prophétique, là, c'est la lignée exotérique. Ce qui se passe dans toutes les écoles où l'on étudie les textes de la tradition. Et comme vous le savez, les textes de la tradition juive, hébraïque, devenue juive par la suite, redevenue hébraïque de notre temps, grâce à Dieu, c'est une bibliothèque d'une épaisseur considérable. Et il y a une médiation par la foi à ce que les prophètes ont dit, mis par écrit dans des livres, et on étudie ces livres avec des guides, avec des maîtres, avec aussi, de façon indispensable, l'expérience faites par soi-même de ce qui est dit, de telle sorte d'arriver à une élucidation, à une compréhension de plus en plus claire, mais finalement, on ne peut pas identifier vraiment, réellement, totalement, fondamentalement, ce que le prophète avait dit. On entend à tout le moins ce que le prophète a dit en ce temps-là pour le monde qui est le nôtre maintenant. Comment dans le monde qui est le nôtre, nous entendons ce que le prophète disait dans son monde en lui. Il y a une clause qui a disparu entre-temps, le fait du dévoilement de la perception expérimentale de ce dont les prophètes parlaient. Et donc nous lisons avec une foi entière et une connaissance, chacun à son niveau, la plus claire possible, nous lisons par allusion dans notre monde ce que les prophètes avaient dit dans le leur. Je pourrais passer beaucoup de temps pour essayer de développer ce point qui me semble très important, de diagnostiquer le fait que depuis la cessation de la prophétie, nous nous trouvons dans un monde qui n'est pas exactement celui dont la Bible a parlé, d'abord pour cette première raison que dans le monde dont la Bible a parlé, il y avait des prophètes, et que ce fait a cessé. Je disais tout à l'heure, je reviens pour éclairer un peu plus ce principe, c'est que la plupart du temps, les hommes de culture, parfois de très bonne foi et de très bonne culture, d'ailleurs, parlent de la prophétie uniquement par analogie avec une expérience que nous pouvons avoir, nous, dans notre monde spirituel, du temps où la prophétie a cessé. Inspiration. Et lorsqu'on parle de l'inspiration prophétique, parfois, on lui donne la signification d'une expérience poétique, d'un certain indice. On parle des choses de la sainteté. On parle beaucoup plus sérieusement que par l'allusion politique, poétique. Mais malgré tout, ça reste du même ordre. Alors que si l'on prend les textes de la Bible au sérieux, et surtout l'histoire qui a véhiculé ces textes, et l'histoire que ces textes véhiculent, on s'aperçoit qu'il devait s'agir d'autre chose. On oublie toujours cette clause sur laquelle j'ai insisté ce soir, c'est que ce phénomène du dévoilement de la parole de Dieu à la conscience humaine a cessé au niveau objectif et expérimental à un certain moment de l'histoire. Alors vous devinez, vous comprenez mieux, je veux dire, cette bifurcation ceux qui ont reçu l'initiation des prophètes eux-mêmes, de la signification de leur langage, de la structure de leur langage, de leur catégorie, la manière d'identifier ce qu'ils voulaient dire lorsqu'ils disaient dans leur hébreu à eux, au temps du dévoilement, se le sont transmis de génération en génération dans les lignées dites ésotériques, dont je rappellerai tout à l'heure brièvement le récapitulatif en fin de séance. Et les mêmes textes dans la lignée exotérique vont avoir une signification de diagnostic pour le monde où nous vivons. Alors que chez les kabbalistes, descendants directs des prophètes, la signification est celle que ce que le prophète a dit avait dans le monde du prophète lui-même. Je reviendrai par des formules différentes sur cette même idée jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment éclaircie. Je vais en donner un exemple simple. Dans le contenu même, à simple lecture du récit biblique, il y a énormément de textes, en fait tous, mais disons, la Bible est tombée dans le domaine public, et par conséquent nous sommes familiers avec son contenu obvié à livre ouvert. Il y a quand même, évidemment, des textes étranges, incompréhensibles, des notions sur lesquelles parfois les modernes jettent un voile pudique de façon de parler, manière de parler, c'était en ce temps-là, on disait comme ça. Un exemple simple. Par exemple, la Bible parle des anges. Personne n'a vu un ange dans notre monde. Et d'ailleurs, faites attention, si vous voyez des anges, c'est pas le rabbin qu'il faut aller voir, c'est le psychologue. C'est pas normal de voir des anges. C'est l'être ange. Mais la Bible parle très sérieusement, c'est un premier exemple, des anges. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça, si j'ose dire? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi cela renvoie comme expérience réelle? Les hommes qui voient des anges et qui les entendent parler dans les récits bibliques semblent être saints d'esprit. Ce n'est pas du tout le cas de nos contemporains qui verraient des anges. Et je dis bien simple parce que tout cela, ça s'étudie. Saints d'esprit dans tous les sens du terme. Tout est normal dans le récit biblique. Et pourtant, pour nous, c'est extraordinairement étrange. Et ça, c'est un exemple parmi mille autres. Alors, vous devinez tout de suite que la lecture de la lignée exotérique et de la lignée ésotérique du discours prophétique lui-même est différente. Encore une fois, l'acte de foi est le même. L'acte de foi qui consiste à se relier par cette médiation de la conviction que ce qui est dit est vrai. Et puis, c'est un problème pour lui-même. Comment la foi se vérifie dans l'expérience de l'existence ? Comment la foi dans le passé de la révélation prophétique se vérifie dans l'histoire. C'est un sujet pour lui-même. Mais le résultat dans le contenu de la connaissance, dans l'éclairage de l'esprit lui-même, est différent. Dans la lignée exotérique, cela reste au niveau de connaissances intellectuelles, desquelles on va conclure, déduire des implications pour la conduite, pour la morale, pour l'ordre des valeurs, pour la vie spirituelle elle-même. C'est une religion. C'est la religion de la parole, de la prophétie. Elle est connue par ses adeptes comme étant vraie a priori, et c'est le monde traditionnel, habituel. Tandis que dans les lignées des kabbalistes, on va rentrer, si j'ose dire, dans le jardin de la connaissance. On va rentrer derrière le voile. On va comprendre et lire le monde à la manière dont les prophètes le voyaient. Alors que les prophètes, d'ailleurs, avaient une initiation de connaissance avant de pouvoir être capables du dévoilement, mais ils étaient capables du dévoilement comme expérience. Pour les kabbalistes, ce dévoilement se transmet, atténué, dilué, chacun dans sa capacité de réception, dans le terme même, mais se transmet à travers une initiation, à travers une étude. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas arrivé que tel ou tel kabbaliste n'ait pas eu, il faudrait dire en français, une expérience prophétique ponctuelle. Mais de cela, la tradition ne parle jamais. Et justement, là j'aborde, ça marche toujours ? Justement, là j'aborde un point important. Au fond, pour notre sujet, la différence essentielle entre le prophète tel qu'en parle la Bible et le kabbaliste du point de vue de la valeur du dévoilement, c'est que le prophète recevait son dévoilement à l'échelle objective, d'une part, nous l'avons vu tout à l'heure, expérimentable par tous. Personne n'a discuté qu'un prophète est un prophète dans le récit biblique. Mais, unanime, objectif dans un autre sens, universel. C'est-à-dire que sa prophétie était valable pour tout Israël. Et à travers tout Israël, pour toute l'humanité. C'est l'objet de la prophétie biblique à proprement parler. La capacité prophétique du kabbaliste, elle, est beaucoup plus subjective. Elle concerne sa manière d'être homme en particulier et celle de ses disciples, qui est manière analogique d'être homme à la manière de leur maître. Elle concerne tel ou tel cercle restreint, défini en une équation personnelle humaine beaucoup plus particulière. Et c'est la raison pour laquelle vous trouverez à travers l'histoire des écoles kabbalistes différentes, suivant tel ou tel sujet, mais sur notre point, c'est la différence essentielle. Malgré tout, la définition que nous avons atteinte dans cette deuxième analyse, c'est que la Kabbalah représente la suite, la rémanence, ce qu'il a pu rester de la prophétie dans le monde privé de prophétie, mais c'est différent du fait que tel ou tel kabbaliste dans l'histoire de sa vie ait pu avoir tel ou tel moment prophétique réel. Vous avez, je ne vais pas vous citer trop de textes, mais vous en avez beaucoup d'exemples, surtout dans la Kabbalah de Safed du XVIe siècle, et en particulier, je ne voudrais pas vous les citer, d'ailleurs j'ai des problèmes de mémoire, quoique je les ai notés. Mais vous trouverez, par exemple, des récits de Magidim. Si vous savez ce que c'est que le Magid, le Magid, c'est, d'après ceux qui en ont expérience, un ange qui se révèle à quelqu'un qui étudie la Torah à la manière de la Kabbalah, en général le vendredi soir, et qui lui donne des dévoilements, des révélations de contenu de connaissance. Bien. Ce sont des moments de l'ordre de la prophétie. Mais vous voyez de l'expérience prophétique. Vous voyez la différence. Cela est subjectif. Dans quel sens subjectif? Personnel. C'est très particularisé. C'est la parole de Dieu, la parole prophétique, mais dans les limites très précises de telle ou telle manière d'être homme. Est-ce que c'est suffisamment clair? Voilà donc l'importance de ce moment. Et nous reviendrons d'ailleurs tout à l'heure dans la deuxième partie. J'aborde maintenant l'objet de la Kabbalah en général. Et pour cela, je crois que la méthode la plus simple, c'est de comparer ce qui ressemble le plus à la pensée de la Kabbalah, c'est-à-dire l'élucidation du contenu de vérité à travers l'enseignement des prophètes, ce que Dieu avait à dire à l'homme du monde dans lequel l'homme a été situé, avec ce qui ressemble le plus à cette préoccupation. Eh bien, nous avons, je crois, dans la culture humaine, deux courants qui, apparemment, ont le même objet. C'est, d'une part, la philosophie, et d'autre part, la théologie. Alors, je voudrais situer très brièvement la définition de la pensée de la Kabbalah, de son objectif, entre la philosophie d'un côté et la théologie de l'autre. La perplexité de l'homme philosophe, c'est précisément l'homme. Le philosophe apparaît comme un homme préoccupé de l'homme, inquiet au sujet de l'homme, et qui cherche à élucider les conditions d'existence, les conditions théoriques et parfois aussi pratiques dans ses implications de l'idée d'homme. Si nous voulions récapituler la définition globale de l'ensemble des préoccupations philosophiques en termes de perplexité, de quoi la pensée philosophique est perplexe, c'est de l'homme. Et effectivement, les grands philosophes ont essayé d'élucider la notion d'homme. Chaque fois qu'une connaissance est rattachée à la question de la destinée de l'homme, elle prend une allure philosophique, elle devient philosophique en elle-même. Très brièvement, certains d'entre vous ont déjà eu ces mises au point, mais très brièvement, je rappellerai que la pensée philosophique n'est pas première. Je veux dire que l'homme à la recherche de la sagesse n'a pas premièrement pensé comme le philosophe. Il y a d'abord eu un stade qui était le stade des sages, qui était censé posséder la sagesse, alors que le philosophe lui se définit, et étymologiquement c'est son nom, comme celui qui recherche la sagesse dans l'attitude d'une perplexité de quelqu'un qui avoue qu'il ne la possède pas, il la recherche. Philosophé, étymologiquement en grec, cela signifie aimer la sagesse, la rechercher parce qu'on ne la possède pas. Et d'ailleurs, l'indice même de l'esprit philosophique, c'est la perplexité. c'est la recherche. Or, l'apparition de la pensée philosophique dans l'histoire de la culture humaine est datée de façon précise. L'homme commence à philosopher, historiquement, dans le sens classique donc, historiquement cela a commencé en Grèce, pour des raisons sociologiques, historiques, démographiques peut-être, que les historiens étudient et ils en rendent compte, précisément au temps de l'arrêt de la prophétie dans la tradition biblique. C'est-à-dire que c'est à peu près à la même époque que les derniers des prophètes parlent et que les premiers des philosophes philosophent. Dans l'humanité générale, dans l'humanité universelle, si vous voulez, ce qui est contemporain de la prophétie en Israël, c'est ce que l'on appelle le temps de la mythologie. Alors, quelques mots sur la mythologie pour notre sujet, mais avant d'y arriver, la fin du temps de la mythologie, qui correspond au temps de la fin du temps de la prophétie en Israël, c'est le temps de la sagesse, par exemple en Grèce. La sagesse retient quoi que ce soit de la mémoire des mythes anciens. Mais très rapidement, parce que la prophétie a cessé, et puisqu'elle a cessé en Israël, elle a cessé partout, je reviendrai sur ce point, alors les mythologues, si j'ose dire, non pas ceux qui étudient les mythes, mais les hommes du mythe, eux-mêmes, n'ont plus compris leur mythe, parce qu'ils étaient incapables de diagnostiquer, étaient devenus incapables de diagnostiquer, d'identifier de quoi était parlé dans les mythes eux-mêmes qui leur avaient été révélés dans leur propre tradition. C'est le temps de la sagesse. Et très rapidement, cette sagesse va se remettre en question dans la méthode de la philosophie. Pour notre sujet, ce qui est important de noter, c'est que c'est la même période de l'histoire de l'humanité. Alors, j'ai touché là un point important. Y a-t-il un rapport entre la mythologie et la prophétie? Je voudrais l'éclairer du point de vue des critères de la tradition juive elle-même. Selon les postulats du récit biblique, c'est un Dieu unique qui se révèle lorsqu'il se révèle. Et par conséquent, s'il en est ainsi, lorsque le Dieu unique se révèle, il se révèle à l'échelle universelle. Chacun de ceux qui écoutent, écoute à sa manière. Le cas particulier d'Israël dans cette écoute a été la prophétie, celui de toutes les autres sociétés, les nations, les goyim, comme dit le texte biblique, a été la mythologie, chacun dans le style de son équation personnelle. Il y a un cas particulier de l'être hébreu qui a fait que la parole émise par celui qui donne la parole prophétique est reçue comme elle a été donnée. C'est, pour employer un terme que je devrais définir peut-être dans d'autres analyses, c'est le mystère de la famille des patriarches. Chaque manière d'être homme qui a fondé telle ou telle nation, telle ou telle tradition, a constitué une équation personnelle, psychique et culturelle qui a fait écran entre la parole du Dieu unique et l'homme qui la reçoit. Elle a joué le rôle d'un prisme transformant la lumière en gardant quoi que ce soit, en gardant ce qu'elle peut en garder, mais la transformant, un diaphragme, si j'ose dire. Le cas particulier dans l'histoire des traditions du peuple d'Israël, et à l'origine, c'est l'identité hébraïque au niveau des patriarches, c'est qu'il n'y a pas de prisme, il n'y a pas de diaphragme, il y a transparence absolue, et c'est pourquoi à travers l'histoire humaine, la parole de celui qui a parlé au temps de la prophétie a été véhiculée telle qu'elle à l'échelle de l'universel humain à travers l'identité hébraïque. Ceci est lui-même un sujet pour lui-même, mais qui est important à comprendre pour découvrir ce fait banal, que l'on peut, si vous voulez, refuser, que l'on peut discuter, pas forcément de mauvaise foi, mais souvent du dedans de l'ignorance. La portée universelle qu'a eue la prophétie hébraïque, même chez ceux qui sont les pires ennemis d'Israël pour en avoir hérité dans l'ingratitude. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais vous comprenez de quoi il s'agit. Il y a une portée universelle de l'impact de la parole biblique. Or, il y a un fait élémentaire qui doit être notre premier étonnement. Cette parole est en hébreu. Dieu s'est adressé à l'homme en hébreu. Évidemment, nous pouvons dire de la manière inverse. C'est l'hébreu qui a écouté en hébreu cette parole de Dieu. Mais c'est ainsi qu'elle a été donnée à l'humanité. C'est clair ? Est-ce que c'est suffisamment clair ? Or, ça veut dire qu'il y a dans l'identité hébraïque elle-même une manière d'être celui qui écoute la parole qui fait qu'il y a une homogénéité entre la parole et celui qui l'a écoutée. Et c'est pourquoi d'ailleurs, bien que la tradition va nous dire que la Kabbalah ne commence pas avec Israël, elle commence avec le premier homme. Le dialogue entre le Créateur et la créature commence avec le premier homme. Mais dans toutes les lignées humaines, cela a fini par se perdre, cela ne s'est conservé qu'à travers la lignée hébraïque. Et encore, de manière extraordinairement restreinte, puisque l'immense majorité des lignées d'enseignement sont les lignées exotériques, et que de très rares lignées ont été parfois, avec des longs siècles d'éclipses, comme nous allons voir tout à l'heure, les lignées ésotériques. Est-ce que c'est suffisamment clair pour tout le monde? Et donc, au temps où il y avait l'événement prophétique, des étincelles de cette vérité sont tombées partout, si j'ose dire. Elles ont atteint toutes les cultures. Toutes les cultures, à leurs racines, s'enracinaient dans cette révélation unique. Tant que c'était le temps de la captation de l'événement de la prophétie, les hommes du mythe, les hommes des mythes, c'est-à-dire quoi les mythes, finalement ? On parle du même problème que je n'ai pas encore désigné, mais la relation entre Dieu et l'homme, entre celui qui a créé le monde et la créature consciente d'elle-même, l'homme, et ont une expérience assez analogue et qu'elles peuvent diagnostiquer. Celui qui a dit le mythe comprend ce qu'il dit. Et celui qui a écouté le mythe comprend ce qu'il y avait dans le mythe, chacun à son niveau, mais tant dans le temps où la prophétie était là comme expérimentable. La prophétie cesse, elle cesse à l'échelle universelle. Le résultat de la cessation de la prophétie en Israël, c'est l'existence de ces deux lignées divergentes, exotériques, ésotériques. Chez les nations, c'est essentiellement le phénomène de la philosophie. La sagesse étant le moment intermédiaire entre le temps du mythe et le temps de la philosophie. Vous retrouverez là, si vous voulez, en particulier pour la société grecque, qui en a été la matrice pour l'Occident, pour la culture occidentale, les différentes étapes de la transformation de la relation à la vérité, à la parole de vérité. Et je citerai très brièvement, à l'appui de cette analyse, deux références que nous trouvons dans le Talmud. La première qui nous explique d'abord une définition, l'événement de révélation dont parle la Bible en général, c'est à deux niveaux, soit par l'événement, soit par la parole. En général, nous avons l'habitude de réserver le terme de prophétique au niveau de la révélation par la parole. Mais il y a aussi la révélation par la vision. On voit l'événement, on perçoit l'événement, on assiste à l'événement. Ces événements nous sont racontés sous forme de sous la rubrique les miracles, si vous voulez, mais d'après par rapport à notre sujet, ce sont des événements de dévoilement. Par exemple, au temps de la sortie d'Égypte. Eh bien, à ce niveau-là, nous avons un exemple très clair lorsque le Talmud nous dit que lorsque la mer Rouge s'est ouverte pour laisser passer le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, toutes les mers de tous les continents se sont ouvertes en même temps. Il y a une explication simple de la tradition exotérique elle-même à ce fait. Si un conditionnement naturel est suspendu, il est suspendu à l'échelle universelle. Pour que la mer Rouge s'ouvre, il faut que la mer s'ouvre. Et quand la mer s'ouvre, toutes les mers s'ouvrent. C'est suffisamment clair. On ne peut pas dire mieux, plus clairement, que les événements dont parle la Bible, elle en parle toujours à l'échelle universelle. Et chacun l'a perçu à sa manière. Chacun l'a vécu à sa manière. Le cas d'Israël étant ce cas particulier d'Israël, la Bible. C'est bien clair. Et si on trouve dans d'autres traditions des récits du déluge très différents du récit biblique, eh bien, ce n'est pas étonnant. Puisque dans cette mémoire, de cette manière, ce qui s'était passé s'est formulé de cette manière-là et pas d'une autre. Est-ce que c'est bien clair aussi? La deuxième expérience de révélation, c'est par la parole. Et là, ça concerne plus directement notre sujet. Eh bien, là encore, lorsque le Dieu unique se révèle par la parole, il se révèle à l'échelle universelle, et quiconque a capacité d'écoute, écoute, mais il écoute à sa manière. Le cas particulier, encore une fois, dans l'histoire de l'humanité, étant la manière hébraïque d'écouter la parole hébraïque. Alors que nous trouverons des textes, surtout chez les kabbalistes, qui parlent d'un langage supérieur à toutes les langues, l'hébreu y compris, et quand je dis l'hébreu, c'est pas seulement l'hébreu de l'Ulban, mais l'hébreu de la Bible lui-même, l'hébreu des prophètes lui-même, c'est ce langage sans lettres et sans voyelles, qui est la parole du Dieu unique, mais, encore une fois, Tout se passe comme si, lorsque la révélation se fait, elle se fait en direct pour Israël et en différé dans les autres traditions et en différé chez les autres nations. Alors, il est évident que un homme d'une autre tradition pourrait discuter ce postulat. Enfin, nous sommes à l'intérieur d'un certain nombre de postulats d'évidence. Et...